France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse, tous les vendredis de 10h à 11h. Et ce matin, à l'occasion des demoiselles de Rochefort et de Chicago, à l'affiche cet automne à Paris, nous célébrons le plaisir de regarder des comédies musicales sur scène ou au cinéma. Comme le disait la cinéaste Dominique Cabrera, dans comédie musicale, il y a comédie et musique. La mélancolie s'allège, la joie se teinte de mélancolie. Cette comédie musicale qui transfigure le réel, qui permet de s'extraire de ses pesanteurs, de ses petites et grandes tragédies. Nous verrons également ce matin ce qui rend heureux notre cerveau quand nous regardons Air, Chantons sous la pluie ou Airspray. Nos invités, le journaliste Laurent Vallière et le neuroscientifique Emmanuel Bigan. Il faudrait un jour écrire une comédie musicale sur leur vie, Thibaut de Saint-Maurice et Guillemette Odissino, les Fred Astaire et les Sid Charis du vendredi. Bonjour Thibaut.
Bonjour Ali.
Chercheur en philosophie dans la vraie vie, quel est le menu de votre punchline philo?
Cogito ergo sum.
Eh oui.
Et voilà.
Je ne vous dis que ça, mais ça sera en français.
Bonjour Guillemette Odissino.
Alors déjà merci, parce que Sid Charis, quand même, c'est vrai que j'ai exactement les mêmes jambes.
Exactement. Chef de rubrique cinéma Télérama, quel est le programme de votre cinéthérapie?
Écoutez, on va pas bien. Ah mais vraiment, ça va pas bien. Hein. Et donc je vais vous donner peut-être une solution pour aller ne serait-ce que un millimètre mieux.
Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, l'émission qui donne du sens à votre vie quotidienne.
France Inter. Grand Bien vous fasse.
Bonjour Laurent Vallière.
Bonjour Ali Rébé.
Journaliste à France Musique et à France Info, producteur de l'émission mythique 42e rue le dimanche à midi sur France Musique. Vous êtes l'auteur d'un magnifique livre éponyme chez Marabout, 42e rue, la grande histoire des comédies musicales. Une nouvelle édition augmentée sort le mois prochain, début novembre.
5 novembre.
Le 5 novembre, un cadeau idéal pour les fêtes de fin d'année.
Merci.
Bonjour Emmanuel Bigan, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes professeur de neurosciences cognitives à l'Université de Bourgogne à Dijon, chercheur au CNRS, vous êtes également musicien et vous avez notamment écrit la symphonie neuronale chez Humaine Science. Alors Laurent Vallière, qu'est-ce qu'une comédie musicale? Quelle est la définition canonique et quelle est la différence fondamentale avec une opérette?
Ah bah c'est une bonne question, vous mettez les pieds dans le plat dès le départ. Disons que la comédie musicale est la fille de l'opérette. L'opérette, ça vient de l'opéra, ça vient de la musique classique, ça vient d'orchestres conséquents avec des cordes, avec des voix très lyriques. Et c'est vrai que à Broadway, dans les années 20, le swing arrive. En fait, la comédie musicale, elle naît, c'est comme un creuset d'influence musicale. Vous avez le jazz, vous avez les musiques noires qui viennent du sud des États-Unis. Vous avez aussi le ragtime. Et en fait, soudain, aux États-Unis apparaissent ce genre. On va dire que la vraie première comédie musicale, c'est presque il y a 100 ans, 1927, Showboat. C'est un peu une sorte de autant on emporte le vent en comédie musicale. Et en fait, le compositeur Jérôme Kern avait en fait, inventer pour chaque personnage une musicalité différente. Donc il y avait la chanteuse de blues pour celle qui était violentée par son mari, il y avait des grands numéros de genre French Cancan, et des choses comme ça. Et en fait, la comédie musicale, c'est un art finalement qui allie, on pourrait presque dire c'est un opéra populaire, c'est un art qui allie la scène, le théâtre, la comédie.
C'est un spectacle total.
Un spectacle des musiques plutôt contemporaines, on va dire, et puis la danse. C'est vrai, comme vous dites, c'est un art total parce que Jacques Demy le dit d'ailleurs. Il y a voilà, il y a de la peinture, il y a la danse, il y a la musique, et c'est pour ça d'ailleurs que ça fait cet effet-là sur les gens, parce que quand ça marche, ça fait de l'effet.
Comment êtes-vous tombé dans la comédie musicale? Pourquoi la comédie musicale occupe-t-elle une place aussi forte dans votre vie, Laurent Vallière?
En fait, j'ai des souvenirs de concerts où je me suis ennuyé, je dois le dire. Je m'ennuyais. Et ce que j'adore dans la comédie musicale, c'est que ce sont des chansons qui racontent des histoires, en fait. Et donc, est-ce que c'est West Side Story qui tout d'un coup m'a transporté? Est-ce que c'est la mélodie du bonheur qui tout d'un coup m'a transporté aussi? Mais en tout cas, il y a cette joie de pouvoir vibrer avec des personnages, et presque, on va dire, parfois de s'identifier ou de rêver. Quand vous voyez Mary Poppins qui sort, vous savez, de son sac, tous ces objets absolument fabuleux, vous dites, ouais, c'est drôle, et tout ça en musique. Donc c'est peut-être ça qui m'a fait aimer ce genre à part.
Et vous, Emmanuel Bigand, pourquoi vous aimez ce genre de la comédie musicale?
Je suis assez fasciné par le style aussi de la comédie musicale. Je crois qu'on peut tout aborder avec la comédie musicale parce que elle capitalise toute la puissance d'expression que sont la musique, bien évidemment, le théâtre et la danse collective qui, sur notre cerveau, a un effet extrêmement puissant. Et pour tout vous dire, moi je fais de la médiation scientifique pour parler des effets de la musique sur le cerveau, et on a essayé différentes formes de médiation et on est arrivé à une comédie musicale qui est notre odyssée musicale du cerveau, et ça marche super bien, et donc je suis absolument convaincu que c'est une forme de communication qui a énormément de pouvoir sur le cerveau, et on va en parler d'ailleurs.
Hier, dans Nouvelle Tête, Daphné Burki disait que la comédie musicale était pour elle comparable à un spa. C'est donc une source de bien-être. Les comédies musicales nous aident à nous sentir bien, Laurent Vallière.
Spa, je trouve que... J'adore Daphné Burki, hein, c'est pas un problème, et je sais qu'elle adore la comédie musicale, mais... On était ensemble d'ailleurs avec Daphné pour voir Starmania. Je crois pas que c'était un spa, Starmania par Thomas Joly, parce que c'était quelque chose de très violent, c'était très sombre, mais ça parlait à nous tous, ça parlait d'une femme qui aime pas le travail qu'elle fait, la serveuse automate, d'un homme qui aurait voulu être un artiste, j'aurais voulu être un artiste, ça parle quand même de terrorisme. Donc un spa, je sais pas, ça parle de mélancolie. Par contre, peut-être que ça... Elle voulait peut-être dire, Daphné Burki, que c'est comme un baume au cœur. Vous voyez, vous pouvez vous identifier à des personnages et identifier avec ces termes simples des choses compliquées que vous ressentez en vous.
Et là, vous avez raison, Laurent Vallière, dans les comédies musicales, on retrouve des tragédies, des deuils, on y retrouve la cruauté humaine, l'injustice, la pauvreté, la misogynie, l'homophobie, le racisme. Les comédies musicales, c'est un condensé de l'expérience humaine.
Mais oui. Il suffit de voir là ce qui est actuellement à l'affiche à Broadway. Le grand succès de cette année, alors c'est un truc qui est venu de nulle part, qui en plus a été créé en Corée, et c'est l'histoire de deux robots. C'est une histoire d'amour de deux robots. Alors il y en a, ils sont pas de la même génération, donc les chargeurs ne sont pas les mêmes. Et il y en a un qui devient obsolète, c'est-à-dire que ça, il va plus être produit. Et donc il va voir chez le voisin pour lui demander son chargeur. Et soudain, ils se mettent à la recherche de ceux qui les ont créés. En fait, cette comédie musicale, qui est tout en raffinement en termes de musique, raconte en fait la solitude des mondes modernes, comme pouvait le faire Starmania. Effectivement, ça parle de choses très profondes parfois.
Mais tout de même, Emmanuel Bigand, en règle générale, la comédie musicale nous transporte de joie. Par exemple, quand j'écoute cette chanson ultra connue de Chantons sous la pluie, de Stanley Donen, Good Morning, quand j'entends ça, j'ai envie d'embrasser le monde, de le prendre dans mes bras. Ça me procure un shot d'endorphine dans le cerveau et le corps. Qu'est-ce qui se passe, Emmanuel Bigand, dans mon cerveau quand j'entends cet extrait de Chantons sous la pluie?
Alors cet extrait, comme peut-être d'autres qui vont présenter des caractéristiques, ça va agir sur le cerveau, sur le fonctionnement du cerveau. Je crois qu'il y a une énergie de la musique qui entre en synchronie avec notre énergie cérébrale et qui peut nous redonner de l'énergie, notamment ces musiques qui sont dynamisantes. Et le texte va rajouter évidemment une sémantique qui va renforcer cet effet euphorisant sur notre cerveau. Ça produit un changement biochimique que vous avez décrit pour une production de dopamine, qui va avoir pour effet de modifier nos humeurs. Et cette modification, elle se fait le temps de la chanson, mais elle reste, puisque c'est une modification qui est biochimique. Donc la biochimie va avoir une durée de vie, en quelque sorte, qui va dépasser largement le spectacle qu'on en a entendu. Donc on aura des effets à long terme de ce moment de plaisir retrouvé en écoutant certaines de ces chansons.
Et pourquoi, Emmanuel Bigand, le fait d'écouter des musiques, des chansons tristes, qui sont également très présentes dans les comédies musicales, ça peut également nous faire du bien, nous procurer une certaine forme de plaisir?
Oui, alors ça c'est le paradoxe, le grand paradoxe peut-être que la musique est une des rares médias à créer cela, c'est-à-dire qu'on se résout de la tristesse des autres, mais c'est parce qu'on est en empathie avec et on se sent moins seul par rapport au moment de tristesse que l'on connaît. Donc la tristesse représentée par une pièce musicale est un petit peu évocatrice de la tristesse que nous on a pu éprouver à différents moments de notre vie, et on se sent pris en charge, en fait on sent un moyen de mettre à distance de cette tristesse, donc on se sent réconforté finalement par une musique triste.
Et ce qui est intéressant, Laurent Vallière, c'est la forme divertissante, amusante, fantaisiste de la comédie musicale et le fond des histoires assez souvent tragiques, voire difficiles.
Bah, vous avez des vraies comédies quand même, vous avez des pures comédies. Moi je me rappelle d'un truc qui s'appelle Something Rotten et qui raconte l'histoire de l'ennemi juré de Shakespeare, qui ne comprend pas pourquoi lui n'a pas de succès et Shakespeare a énormément de succès. Et là ça se veut une vraie comédie. Quand vous regardez Mamma Mia, c'est quand même une vraie comédie.
Oui, mais il y a aussi...
Mais vous avez West Side Story, effectivement, qui est l'adaptation de Roméo et Juliette en comédie musicale et qui va... Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait la comédie musicale est un art... non noble, au sens où il est toujours promu par des investisseurs privés. C'est-à-dire que forcément, une comédie musicale à Broadway, pensez par exemple au chef-d'œuvre de Gershwin, Porgy and Bess, qu'on peut maintenant, et la chanson Summertime, qu'on entend dans toutes les maisons d'opéra, cette comédie musicale a été créée à Broadway, et il fallait qu'il y ait des gens qui viennent. Et donc, il y a ce schisme, on va dire, entre l'exigence de profit, presque, des producteurs qui ont besoin de faire sourire les spectateurs, de les faire venir, de les réveiller à 11h du soir, et c'est pour ça qu'il y a un numéro toujours, on appelle ça le 11 o'clock show, l'avant-dernière chanson d'une comédie musicale, c'est toujours une chanson pétaradante pour réveiller le businessman qui est venu et qui, à 20h, voilà, était là, et puis il faut bien un peu le réveiller. Donc, il y a toute une trame pour, en fait, j'allais dire, enthousiasmer le public.
Guillemette Audicino.
Moi, il y a un truc qui me plaît fondamentalement, en dehors de tout ce qu'on vient de dire dans la comédie musicale, c'est qu'on assiste à quelque chose qui est presque du domaine, justement, de la magie, c'est la multitude des talents, que ce soit sur scène ou à l'écran. On a des gens qui savent tout faire. De regarder, je sais pas moi, Gene Kelly, qui à la fois joue la comédie, chante, danse. Cette notion d'artiste complet, en soi, c'est réconfortant.
Et puis Emmanuel Bigan, le cœur battant de la comédie musicale, c'est la mise en scène de la palette des émotions humaines.
Oui, alors bien sûr, ces émotions, elles peuvent être de différentes couleurs, elles peuvent être dramatiques, elles peuvent être joyeuses, et c'est vrai qu'on a besoin de réguler ces émotions dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'on peut affronter des émotions extrêmement négatives grâce à l'art, et c'est même sans doute une des fonctions de l'art, c'est de nous donner les moyens de faire face à ces émotions dramatiques, et dans la comédie musicale, peut-être la force, c'est d'utiliser les différentes formes d'expression artistique, et qui vont être mises en œuvre pour nous montrer qu'on est capable de faire face à des situations terribles. C'est pour ça, sans doute, que la comédie musicale peut aborder des thèmes qui sont assez dramatiques. Et pour faire référence à ce qui vient juste d'être dit, on a dans notre cerveau des neurones qu'on appelle des neurones miroirs. Et quand on voit un danseur, par exemple, on a l'impression que c'est nous qui dansons. Quand on voit un chanteur, on a l'impression que c'est nous qui chantons. Et quand on voit un personnage qui fait tout en même temps, comme on vient de le dire, on se sent super puissant, c'est-à-dire que la puissance que nous donne la comédie, elle vient pour nous. On se sent augmenté et on augmente nos capacités à faire face et à faire front aux difficultés de la vie. Donc ça fait partie des pouvoirs magiques de l'art, mais alors qui sont concentrés, si je peux dire, dans la comédie musicale. Sans doute, ça contribue à son effet fascinant pour nous. C'est un ressourcement d'énergie, j'ai envie de dire assez facile, parce que grâce à cette mise en œuvre, notre cerveau et grâce à ces neurones miroirs, prend tout, avale tout d'un coup, comme si on prenait un grand verre de vitamine C, quoi.
Et elle suscite aussi des réactions émotionnelles très puissantes, c'est de la vitamine C émotionnelle, Guillemette Audicino et sa cinéthérapie.
France Inter.
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Grand bien vous fasse.
Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement.
Ha ha. Chère Ali, ça va, vous?
Ouais.
Et vous, les auditrices, les auditeurs, ça va? Je vous demande ça parce qu'autour de moi, depuis 15 jours, tout le monde est malade.
Je confirme.
Tout le monde est fatigué. Tout le monde me parle de pré-retraite avec des trémolos d'envie dans la voix. Et c'est limite si certains de mes potes ne fantasment pas un plan social dans leur boîte pour pouvoir raccrocher les gants. Moi, ce week-end, j'ai failli me mettre à hurler simplement parce que le papier toilette dans un bistrot se déroulait mal et qu'il se déchirait. Et hier, j'ai râlé. Pourquoi on m'a pas prévenu que le code de mon immeuble avait changé ? Avant de m'apercevoir que ça faisait 10 minutes que je tapais mon code de carte bleue. Bon, alors, soyons lucides, cette rentrée ne ressemble pas à une comédie musicale. Surtout que, ça rime, on a tous mal au cervical. Alors, une seule solution, comme toujours. En dehors de s'inscrire au yoga, hein, parce qu'on ira une fois et puis la flemme. Regarder des films. Et tout particulièrement des films où la dépression est une qualité. Prenez Le Grand Bain de Gilles Lelouch. Avec sa bande de mecs trop gras, trop losers, trop anxieux, trop coincés, trop vieux, et qui sont moralement au fond de la piscine.
J'ai l'impression que tout ce que je touche se transforme en échec.
Moi, je trouvais plus dépressif que moi, j'ai l'impression.
On va chercher la fille qui est en nous.
Moi, il n'y a pas de fille en moi.
Bien sûr que si, abruti. Hein, t'en perdras pas tes trucs pour autant. Au contraire, t'en gagneras peut-être un peu.
Tu ne sens jamais, toi ? Non. Ça m'empêche pas d'avoir peur.
On sait que vous avez peur, mais on est là.
Oui, on est là, les mecs. Alors, quitte à toucher le fond de la piscine, et évidemment, sans le joli pull marine d'Isabelle Gianni, hein, ce serait trop beau, autant se lancer dans la natation synchronisée. Y croire dur comme fer, alors que tout le monde se fout de votre gueule, et vous dire que vous n'allez pas échouer. Cette comédie tellement réconfortante dit surtout, même si vous ne mettez pas un seul pied dans le bassin, hein, qu'on peut noyer son chagrin existentiel grâce à un petit grain de folie, un dérapage bien contrôlé de son quotidien trop morne et une bonne bande de bras cassés pour vous soutenir.
La dépression, c'est une méduse qui peut guetter n'importe qui, Guillemette.
Oui, Ali, comme dans cette merveille de comédie qui chante, une comédie qui chante, d'Alain René, on connaît la chanson. Où André Dussolli a réussi à mettre la mélancolie à distance et reprend du bachung. Où Sabine Azéma fait la nana qui va toujours bien et balance à plein poumon « Résiste !» de France Gall, mais est complètement perdue sans Pierre Arditi, qui pourtant a tout le temps l'air triste. Où Agnès Jaoui fait des malaises constamment parce que ça fait des siècles qu'elle bosse sur un sujet de thèse dont personne n'est capable de dire le titre correctement. Et où Jean-Pierre Bacri fait croire qu'il a réussi dans la vie alors qu'il est chauffeur de Dame Riche. Ce film, où défilent tous les tubes que nous aimons, est une ronde de gens qui, comme nous, appartiennent à cette foule sentimentale d'Alain Souchon, en quête d'idéal, mais qui, en avouant que ça va mal, peut peut-être aller un peu mieux.
Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs, j'ai sifflé, tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zaï, 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 zaï.
Ben ouais, alors, vous, je sais pas, hein, mais moi, un petit Jean-Pierre Bacri en guise d'antidépresseur, et déjà, zaï, 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 je me sens mieux.
On connaît la chanson que j'ai vue, je crois, 15 ou 20 fois.
Donc,
d'Alain René, à voir sans modération. Et puis, Le Grand Bain de Gilles Lelouch. Deux films pour ce week-end assez pourri, qui s'annonce pluvieux.
En plus, mais oui, parce que la météo s'en mêle, c'est cool. Voilà.
La cinéthérapie de Guillemette Auzicino à partager autour de vous sur vos réseaux sociaux à partir de l'appli Radio France. Dans un instant, quelques comédies musicales qui font du bien. Ce sera juste après avoir écouté Juliette Armanet, Cavalier Seul, un titre de 2017.
Oui, la liberté est mon...
Juliette Armanet interprétait Cavalier Seul.
Starmania fête ses 40 ans.
Ali Rebéi.
40 ans ? Ah, oh, puis je l'adorais. C'était pour moi. Ça reste. Oui, c'est la meilleure comédie musicale, certainement. Indéniablement.
Grand bien vous fasse.
Poétique, nostalgique et perdu. Oui, mais enfin, déprimant, dépressif. Profondément dépressif. Ça fait génération de dépressifs comme nous.
Sur France Inter.
J'ai la tête qui éclate. Je voudrais seulement dormir. M'étendre sur l'asphalte. Et me laisser mourir.
Et ce matin, nous explorons quelques comédies musicales qui nous rendent heureux avec le spécialiste à Radio France, Laurent Vallière, et avec le neuroscientifique Emmanuel Bigan. Emmanuel Bigan, vous avez donc choisi Starmania, livret de Luc Plamondon et paroles de Michel Berger. C'était en 1979. Expliquez-nous ce choix. Vous, Guillemette Odissino, vous aviez adoré la mise en scène de Thomas Joly.
Ah oui, absolument. Oui.
Emmanuel Bigan.
Oui, alors je pense que là, on a un exemple ici d'une comédie musicale qui nous parle de notre condition humaine dans toutes ses facettes et dans toute sa fragilité. Une condition humaine qui évidemment est toujours un peu la même dans sa fragilité, mais qui change d'apparence au cours des histoires et au cours des périodes de la société. Là, on est placé dans une période moderne, donc ça nous parle de nous maintenant. Et je pense que la façon dont on parle par l'intermédiaire de cette représentation artistique, ces chants et ces mises en scène théâtrales et cette théâtralisation de la vie, ça fait beaucoup de bien parce que ça met de la distance et ça nous donne la sensation de pouvoir faire face, d'affronter ces difficultés et ça nous renforce dans notre puissance de vie en quelque sorte. C'est pour ça qu'elle nous fait du bien. On va pas dire qu'elle est réjouissante, on l'a dit déjà, c'est pas fleur bleue la comédie musicale parce que la vie n'est pas fleur bleue, mais elle nous donne la possibilité de croire qu'on est capable de traverser des moments difficiles. Peut-être la chanson, je l'aime beaucoup, c'est moi qui vous l'avais indiqué, parce que justement elle représente cette chanson Stone.
Guillemette Odissino.
Ah oui, mais je suis complètement d'accord. Si effectivement, comme Laurent l'a dit tout à l'heure, dans Starmania, il y a donc Fabienne Thibault, et puis bon, les nouvelles chanteuses là, de l'adaptation de Thomas Joly, qui était exceptionnelle aussi, mais qui chante bah, Le Monde est Stone, comment vous dire que... Enfin voilà, non, hein, voilà, passons, hop, on est dedans à fond. La serveuse automate, quelqu'un qui en a ras-le-bol de faire des boulots répétitifs, et enfin bon, voilà, on est dedans. Des hordes de jeunes qui en ont ras-le-bol et qui agressent le bourgeois parce qu'ils ont envie que le monde change. Eh bah, ben, comment dire ? Enfin, c'est incroyable. Elle était à l'époque censée être en fait un peu pré-apocalyptique, ça jouait avec des concepts et tout, mais en fait elle n'a pas bougé d'actualité.
Mais non,
c'est pour ça que Thomas Joly a pu la réadapter avec autant de réussite, parce qu'en fait c'est incroyable comme les thèmes nous parlent et il y a quelque chose d'opératique, parce que quand même il faut dire que ce soit à l'époque ou aujourd'hui, les chanteurs, vous entendez Fabienne Thibault, c'est pas une petite bluette, vous avez vu la tessiture de voix. Diane Dufresne, on n'en parle même pas. On avait des gens qui étaient à la limite de la capacité d'opéra, donc des notes qui nous brisent le cœur. Quoi.
Laurent Vallière.
Mais comme vous le dites, Guillemette, en fait, on oublie, et c'est ce que à quoi a rendu hommage Thomas Joly dans sa nouvelle production, on oublie que ça parlait Starmania du kidnapping d'une jeune femme, d'une élection entre... du kidnapping d'une jeune femme qui est présentatrice de télévision, d'une émission qui... Starmania, c'était un peu la Star Academy avant l'heure. On est en 1979. Hein. Ça parle quand même d'une élection entre un homme d'affaires multimillionnaire qui aurait voulu être un artiste, qui est amoureux d'une vedette du star system et qui essaye de combattre un gourou écolo. Et en fait, c'est dingue, quoi. Luc Plamondon, en 1979, il avait déjà tout inventé, quoi.
Tiens, si on écoutait un extrait de Grease, une comédie musicale qu'on a vue à Broadway en 1971 et au cinéma en 1978 avec John Travolta et Olivia Newton-John.
Sandy.
Dire.
Bah là, on est dans, alors on est vraiment dans la comédie musicale feel good, mais il faut savoir quand même que ça a été créé. Alors c'est drôle le nombre de comédies musicales qui sont créées dans des campus par des jeunes étudiants de comédie musicale alors qu'ils ont 20 ans. Là, en l'occurrence, c'était à Chicago. La première, c'était dans un tout petit théâtre sous l'université et ça a été repéré par des producteurs de Broadway. Et eux, ils voulaient faire comme ça un hommage aux années 50, American Graffiti, etc. Mais dans cette histoire très ironique, très drôle d'amour, qui est quand même très contemporaine aussi, entre ces deux, ce couple, enfin ce garçon et cette fille qui se rencontrent pendant l'été, puis à l'école se snobent facilement. Et on raconte aussi énormément de choses sur, par exemple, les violences ou l'avortement. Il y a des chansons très fortes. Donc en fait, encore une fois, c'est Dovatia qui dit ça. Les comédies musicales sont un ascenseur émotionnel. Et je pense qu'il a raison. C'est-à-dire, quand vous regardez une comédie musicale, au bout d'une heure et demie ou deux heures de spectacle, vous avez eu un arc-en-ciel d'émotions.
Et Mel Bigan, sur l'ascenseur émotionnel que provoque Grise.
Oui, j'aime bien, parce qu'en fait, notre cerveau, il est assez dupe. Des moments où on lui présente des éléments d'une réalité qui lui parle, il se laisse prendre complètement. Et oui, alors on est dans un ascenseur émotionnel. Ça, c'est le propre quand même de la création artistique. C'est d'arriver à tromper le cerveau. Et les artistes sont des malins. Ils savent très bien faire des illusions dans lesquelles le cerveau se laisse prendre. Et on se fait prendre avec. Donc oui, complètement, j'adore la notion d'ascenseur émotionnel pour ce genre de spectacle.
Guillemette.
Là, il y a même dans le film, ça, c'est vraiment un ascenseur émotionnel, vu que ce qu'on entend, la chanson, la mise en scène se passe dans un parc d'attractions. Donc en fait, en plus, ils sont. Non, mais c'est vrai, ils montent, ils descendent, ils sont sur des espèces de balançoires et de trucs. Alors vraiment, en termes d'ascenseur émotionnel, je veux dire, c'est marqué dessus. Hein. Et je suis d'accord pour les thèmes qui sont des thèmes sociétaux forts. Dans Dirty Dancing, par exemple, aussi, il est question d'avortement. Mmh. Et toujours dans ces années.
Et dans R, d'évocation
des années 50-60. Où tout d'un coup le problème de l'avortement, le problème des filles mères se pose.
Enfin, ou des violences conjugales d'ailleurs.
Et des violences conjugales. Donc pour un spectacle qui est censé en fait faire plaisir, disons, aux adolescents. Bon, il y a d'autres, la preuve nous, vu notre âge. Mais il y a quand même des sujets qui sont glissés. Et qui concerne en fait des choses plus graves.
Mais par exemple, prenez juste ce tubissime belle dans Notre-Dame de Paris. C'est quand même quoi ? Pourquoi ça a marché ? Mais parce que vous avez trois hommes qui sont amoureux de la même femme. Et en fait, vous aviez le petit beau gosse, là, Patrick Fiori. Vous aviez le Quasimodo, donc le difforme auquel on peut tous s'identifier. Ou vous aviez le curé.
Parlez pour vous.
Et donc, la chanson, elle parle à tout le monde. C'est pour ça que ça a cartonné.
Thibaut de Saint-Maurice.
Alors moi, j'y connais pas grand-chose en comédie musicale, mais à vous écouter, j'ai l'impression que dans l'arsenal que les artistes ont pour essayer de faire passer un message ou de changer la société, j'ai l'impression que les créateurs de comédie musicale, ils ont fait le choix de la légèreté. Et du coup, j'ai l'impression qu'à vous écouter, la légèreté, alors sous toutes ses formes, mais devient finalement une arme de transformation sociale et morale de l'époque.
Ce qui est aussi intéressant, c'est que finalement, les comédies musicales ont suivi les genres musicaux des différentes décennies. Dans les années 20, c'est le jazz. Dans les années 50, c'est un peu plus classique, symphonique. Dans les années 60, c'est le rock. Et après, dans les années 70, c'est la pop.
Et en disco.
Fait, Et encore Hamilton aujourd'hui, qui est le grand carton, c'est du rap. Et donc, en fait, comme vous le dites, pour avoir cette légèreté, on utilise le genre musical de la décennie qui intéresse les gens.
It's supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
Emmanuel Bigan, pourquoi Mary Poppins, le film Disney de Robert Stevenson avec Julie Andrews en 1964, vous donne des ailes?
Oh, parce que c'est certainement un concentré de rêves et d'espoir pour le coup, et avec des moments qui vont rester, je pense, longtemps dans l'histoire collective, dont cette fameuse chanson qui, sur le plan linguistique, est quand même amusante, parce que il faut arriver à chanter ce genre de chansons-là, et la musique vous aide à passer sur des difficultés linguistiques majeures. Donc on a plein d'éléments dans cette comédie musicale qui montre à quel point on peut pousser notre cerveau beaucoup plus loin que ce qu'il a l'habitude de faire dans la vie quotidienne. Et ça, c'est un peu le challenge de l'art, enfin, c'est un peu la force de l'art, c'est de nous faire dépasser un peu nos capacités habituelles. Et je trouve qu'on a un peu tout ça dans Mary Poppins.
Guillemette Audicino.
Oui, et puis une fois de plus, la maman des enfants dont s'occupe Mary Poppins, elle est quoi ? Elle est suffragette. Elle va défiler dans la rue pour le droit des femmes.
À voter.
Ouais, à voter. Mmh. Et son papa, leur papa, il travaille dans une banque. Ça l'amuse moyennement. Et sur le chemin de la banque, il passe devant des mendiants. Qui, en fait, parce que c'est le moment aux États-Unis où vraiment il y a eu le crash de 29 et tout. Donc franchement, là aussi, de manière, alors là, en mode totalement conte de fées, ça dit aussi que de temps en temps, bon bah, il faut une nounou magique pour améliorer la vie, mais le décor, en fait, est un décor assez dramatique. Mmh.
Et ça prouve que Walt Disney, dès ses premiers films, a vraiment cru à la comédie musicale, quoi. Et c'est quand même lui qui va avoir l'idée de faire le premier long métrage d'animation, qui sera Blanche-Neige, et qui sera un film musical, un dessin animé, une comédie musicale. Et en fait, avec Mary Poppins, il arrive à son rêve le plus ultime, à savoir le mélange de personnages en prise de vue réelle, Julie Andrews, les pingouins, dessin animé, et la comédie musicale.
Si ça pouvait exister dans la vraie vie.
Rakowski! You better get your head out of your ass! Let's go!
Laurent Vallière, dans votre Panthéon, erre sur scène en 1967 et mise en scène au cinéma par Miloš Forman en 1979. Le cinéaste Olivier Ducastel nous dit ceci à propos de R. Quand je regarde R, j'ai envie de porter les cheveux longs, de danser, de faire l'amour. Et vous, Laurent Vallière ?
Eh ben, je ne sais pas, je vais pas vous le dire, mais en tout cas, je pense que c'est ce que Miloš Forman, l'histoire est extraordinaire. Miloš Forman vivait en République tchèque, en Tchécoslovaquie. C'était... il y avait le rideau de fer, il ne pouvait pas quitter le pays. Et puis il avait réussi à partir à New York pour, je ne sais plus pour quelle raison, pour tourner un film. Il va à Broadway, il voit Hair. Hair qui est tout l'inverse de tout ce que propose le régime communiste à l'époque.
C'est sûr, oui.
Et il se dit, un jour, je vais faire une comédie musicale à partir de cette œuvre. Et là, c'est juste... Alors il va retravailler le livret, parce que ça qui est intéressant, c'est que... Ce ne sont pas les mêmes médiums, le cinéma et le théâtre. Vous ne pouvez pas raconter la même chose, histoire de rythme. Et donc, il va inverser des choses. Mais et il va surtout changer la fin. C'est-à-dire que...
Ne racontez pas.
On ne va pas raconter la fin, mais il y a un mort et il y en a un pas. Enfin bref, peu importe. Et le film est juste un hymne, effectivement, à la période hippie. C'est juste un monument de liberté avec ce moment qui... Là, on entend « Let the sunshine in ». Mais c'est quand même un moment où on est en train d'enterrer quelqu'un. Donc en fait, il y a toujours dans la comédie musicale ces deux choses qui se fracassent. La musique, certes, qu'on va dire très légère, et puis un propos absolument sombre.
Guillemette.
Oh bah, je suis d'accord. Non mais franchement, R. Et alors, aussi, il faut... les comédies musicales, vous savez, souvent on voit des films qui ne sont pas musicaux, et on dit, ah, j'avais bien aimé, mais maintenant il est daté. La comédie musicale, comme de toute façon il y a quelque chose de féerique, quelque chose de au-delà du réel et au-delà du réalisme, les comédies musicales sont rarement, quand elles sont très réussies, datées. Là, on est en plein power flower, on pourrait dire bon, machin. Et en fait, effectivement, on a immédiatement envie d'être à poil sur une table en train de danser et de donner des grands coups de pied dans les assiettes.
Et on a oublié de dire que ça se passe pendant la guerre du Vietnam.
Absolument.
C'est quand même l'histoire d'un soldat qui ne veut pas être enrôlé dans l'armée américaine pour aller se faire tuer à la guerre du Vietnam. Donc il y a un contexte vraiment sombre.
Mais en fait, les comédies musicales souvent sont écrites dans des contextes très précis, mais de telle manière que ça devient pratiquement un temps inventé. Et donc du coup, ce temps inventé reste pérenne, c'est-à-dire il ne vieillit jamais. Les bonnes comédies musicales ne vieillissent pas.
Delphine, viens voir, ils sont arrivés. Ils s'installent sur la place.
Tu sais, les gosses seront jamais prêts. Faudra les faire répéter dimanche matin.
Ben non. Tu crois ? Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do.
Emmanuel Bigan, je rappelle que vous êtes neuroscientifique. Vous avez choisi Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy et Michel Legrand, actuellement à l'affiche du Lido à Paris, un spectacle France Inter. Expliquez-nous ce choix, pourquoi Les Demoiselles de Rochefort vous font autant de bien ?
Oui, sans doute, une fois de plus, c'est cette capacité à donner de la profondeur, finalement, à des histoires qui peut-être en ont pas tant que ça. L'argument dans l'histoire de Demoiselle de Rochefort, il est finalement assez fin, mais la mise en musique et la mise en danse, il faut pas oublier la composante danse dans la comédie musicale, parce que notre cerveau, il aime danser, il a besoin de danser, mais notre cerveau est fait pour bouger. Et la représentation de la danse, qui est beaucoup plus présente dans le cadre des comédies musicales que le serait dans l'opéra, par exemple, ou même au cinéma, et encore moins dans les concerts, on n'a pas. Ça fait vraiment, vraiment beaucoup d'effets, et ça donne tout d'un coup ça, des dimensions complètement autres, hein, aux réalités qu'on est en train de voir. Donc j'aime beaucoup la Demoiselle de Rochefort à cause de ça, et ce fameux duo des sœurs jumelles, il est resté célèbre, il est intemporel, je pense, on verra, mais il est toujours aussi présent dans les esprits, et ça, ce sont des choses intéressantes, parce que ça dit que ça parle, ces comédies musicales, à des fondamentaux de notre du fonctionnement de notre cerveau, mais de notre personnalité, en fait.
Laurent Vallière.
Avec des histoires éternelles, parce que c'est quoi le thème des Demoiselles de Rochefort? Ce sont 8 personnages à la recherche de l'âme sœur, de l'homme ou de la femme idéale. Ce qui est très beau, par exemple, dans la comédie musicale, et ça marche très bien, c'est très souterrain, mais en fait, vous savez, il y a le marin Maxence, et puis il y a Delphine, qui est incarnée par Catherine Deneuve, et en fait, chacun cherche l'âme sœur, et en fait, ils ne savent pas, ils s'aiment, mais nous, le spectateur, on le sait, parce qu'ils chantent chacun la même mélodie à des moments différents. Il y a des choses comme ça extrêmement magiques et très, très subtiles, on va dire, que permettent la comédie musicale.
Et je signale votre podcast « La story des Demoiselles de Rochefort » disponible à partir du 9 octobre sur le site et l'appli Radio France. Et nous accueillons le réalisateur François Audouin. Bonjour François.
Bonjour.
Réalisateur de l'émission « Bistroscopie » de Charline Vanhoenacker le samedi à 19h20. Ouais. Dans mon souvenir, quand on travaillait ensemble sur les émissions « Microfiction » et « Ça va pas la tête ouais. », les comédies musicales, c'était pas du tout votre cam.
Ah non, pas.
Il faut bien un relou de l'étape.
Oui, donc bah c'est vous. Voilà, c'est moi. Vous allez pouvoir m'insulter. Les haters vont pouvoir appeler le standard et les médiatrices pour dire voilà tout le mal qu'ils pensent de moi.
Ouais, vous n'êtes pas sensible à la comédie musicale.
Eh ben en fait, c'est assez simple. Je crois, je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout. C'est-à-dire que quand ça démarre, je suis dans le film, tout se passe bien, l'intrigue démarre, je dis est-ce que ça me plaît pas, bon voilà. Et puis d'un coup, ça chante. Je dis pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et puis maintenant, il danse. Mais quel est le rapport? Et en fait, souvent, ça me fait ça. Et, et puis, des fois, même, on est dans l'intrigue. Hein, on a envie de savoir la suite. Et ça s'arrête. Ah, j'ai 5 minutes. Ok, j'attends 5 minutes qu'il ait fini de chanter. 5 minutes qu'il ait fini de danser. Ok, d'accord. Ah, on peut reprendre l'histoire. Mais vraiment, ça me fait ça. Alors, si, pour moi, ça ne s'intègre pas complètement dans le récit, vraiment, c'est très, très difficile. Et même, il y a des cinéastes que j'adore et qui s'y sont essayés, et après, je les déteste.
Alors qui, par exemple?
Non, je les déteste. Bah, pas. Si. Non, mais par exemple, je sais pas si c'est peut-être une comédie musicale, mais les frères Cohen, quand ils font Ave César, il y a quand même pas mal de parties chantées, ouais, bah ouais, dansées. Alors, ça fait partie aussi de l'univers, puisqu'ils sont à Hollywood et tout. Mais c'est pareil, c'est un des films que j'aime le moins des frères Cohen. Ou même Léo Scarrax, qui... Rien à voir, on est dans deux spectres différents.
Annette bah, c'est un chef-d'œuvre.
J'adore les Oscars. Je dirais, bon, alors je vais pas dire que j'ai passé un mauvais moment parce qu'il y a des choses que j'aime chez lui, mais il m'a déçu.
La parole est à la défense, oui, Laurent.
Mais alors en fait, c'est drôle parce que François, vous avez le discours des producteurs d'Hollywood dans les années 30.
Oh là là.
Parce qu'en fait. Pendant les années 30, vous aviez, donc c'était la crise à Broadway, donc tous les George Gershwin, Cole Porter, Irving Berlin, tous les grands de Broadway sont allés à Hollywood. Et en fait, on leur commandait des chansons, et puis ils rentraient après à Broadway. Et sur la table de montage, à chaque fois, les chansons disparaissent. Parce qu'à chaque fois, ça coupe. Donc, il y a un vrai sujet, mais il y a un vrai sujet sur la couture. Et ça, c'est la plus délicate dans la comédie musicale. On est toujours pas loin du ridicule, quand un personnage se met à chanter.
Oui, je suis d'accord, pas loin. Même
des mais des fois, ça marche.
Ligne, des fois, hein.
Non, des fois, ça marche. Je suis pas d'accord avec vous.
Mais là où je fais un effort.
Ah, merci, Guillemette, ouais. C'est hyper sympa.
Pour rejoindre François, quand il dit que le côté soudainement, ça se met à chanter, bon, t'avais qu'à regarder le générique aussi, il y avait marqué que c'était une comédie musicale, donc ça, je t'en prie. Mais, en revanche, le côté, qu'est-ce que cette chanson vient foutre là-dedans? Parce que ça ne raconte rien, et pendant 5 minutes, je patiente, parce que l'histoire, je te cite, n'avance pas. Ça, c'est un vrai argument.
Ah oui, mais
les bonnes comédies musicales, François, tu n'as peut-être pas vu les bonnes.
Ouais. Peut-être, oui.
Les chansons et même les ballets participent de la progression de l'histoire. Mais si tu patientes mollement pendant certaines chansons, c'est que, là, effectivement, peut-être que la couture est mal faite, que la chanson est peut-être un peu accessoire par rapport à la progression scénaristique.
Laurent
ça,
Vallière.
Je peux l'admettre.
Les bons dramaturges, les bons compositeurs, comme Stephen Sondheim, le créateur de nombreuses comédies musicales et le parolier de West Side Story, n'hésitez pas à faire harakiri sur la meilleure chanson du monde si jamais elle interrompait le show.
Merci François Audouin.
Oh, c'est dommage, j'avais envie de dire quelque chose. Demain. J'allais dire que j'avais une comédie musicale que j'aimais bien.
Alors,
pour de vrai, ouais. Si, c'est, ça m'a réconcilié. C'est Joker Folie à deux. Parce que pour le coup, vraiment, les chansons s'inscrivent dans la psychologie des personnages et c'est presque en fait s'ils sont rentrés à chaque fois dans leur tête. Et pour le coup, j'ai trouvé ça très très
malin.
Redonnez
le titre.
Joker Folie à deux, c'est le deuxième volet du diptyque Joker avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga.
Vous aimez bien les comédies musicales dépressives, c'est tout.
Et voilà, on vous retrouve, François Audouin, aux commandes de Bistroscopie par Charline Van Hennecker demain à 19h20. Et l'invité, c'est Zaz. Merci François.
Merci d'être venu.
Et on termine avec votre choix, Thibaut de Saint-Maurice, Hairspray, la comédie musicale de John Waters, sortie en 1988. Le remake était sorti en 2007 avec John Travolta. À titre personnel, moi, c'est mon antidépresseur. Quand ça va pas trop fort, un petit coup d'Hairspray, le film de 2007 est là.
Oui, oui, alors moi j'ai été saisi, cueilli par cette comédie musicale, donc comme je disais, je ne suis pas du tout un grand expert, j'en ai vu assez peu finalement, et en fait j'ai eu la joie de voir cette comédie musicale montée par une troupe amateur pendant les vacances, et c'était extrêmement joyeux, réjouissant.
Avec des thèmes difficiles,
voilà.
Hein, le racisme.
Exactement, et en fait c'est ça que j'ai trouvé, donc on en parlait tout à l'heure, hein, la portée politique, etc. Et en fait ce que j'ai aimé, et du coup ce qu'il faudrait que je explore en regardant toutes les comédies musicales dont on a parlé aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une forme d'optimisme vraiment fondamentale, qui consiste à dire que même si on est dans un monde qui va mal, Starmania, on l'a dit tout à l'heure, etc., il y a...
Parce que Hairspray, ça se passe dans l'Amérique de la ségrégation dans les années 60. Hein.
Voilà, c'est ça, avec des discriminations, du racisme, il y a aussi de la grossophobie, il y a aussi du classisme, c'est-à-dire, voilà, on n'aime pas les milieux populaires, enfin, il y a les questions de qui appartient à quel milieu, qui va pouvoir faire quoi, etc. Et en fait, on a la possibilité de voir des émancipations se réaliser, des sociétés se transformer en 1h30, 2h de spectacle. Et donc, c'est un peu comme les contes de fées. Ça nous dit, en fait, la happy end, c'est quelque chose de possible.
On n'a pas le temps, de parler de Chicago. Gardez-le pour une cinéthérapie.
Bon, alors, je parlerai de Chicago, mais je peux conseiller à François Audouin de regarder Phantom of the Paradise de Brian De Palma. Parce qu'alors ça... Ça va le réconcilier, parce que franchement, c'est une comédie musicale un peu hors des sentiers battus. Et là, ça chante pour de bonnes raisons.
Ok, merci Guillemette.
Dans un instant, les punchlines de la philo de Thibaut de Saint-Maurice. Je pense donc je suis de ce bon vieux Descartes. En attendant, on écoute Pulp, qu'interprète Tina. Stripes. The one she wore the night I almost spoke to her. Tina's always attentive to my needs. We're really good together 'cause we never meet. Tina. Yes, tonight I have been thinking about Tina. Display of everyday sexuality. Oh,
Yes, tonight I have been thinking about scenes from a marriage that never took place. Although I did once buy a ring.
On dirait du David Bowie, mais c'est Pulp qu'interprétait.
Ah ouais, grave.
France Inter.
Nietzsche, allez.
Grand bien vous fasse.
L'homme qui a du remords est pareil au chien qui mord une pierre.
Qu'est-ce qu'il dit ?
Il dit que l'homme n'est pas toujours un loup pour l'homme.
Ah bon ?
Si.
Ben si.
Alors ce matin, dans votre punchline de la philo, Thibaut de Saint-Maurice, vous vous attaquez à la plus célèbre des citations philosophiques, le fameux « je pense, donc je suis ».
Oui, ça ne sera pas une chronique chantée, hein, malgré le thème de l'émission. Voilà. Alors, nous sommes en 1637, et c'est le philosophe René Descartes qui est l'auteur de cette formule, « donc je pense, donc je suis », dans son texte le plus célèbre, le « Discours de la méthode ». Alors, de quoi s'agit-il ? En bon philosophe, mais aussi en bon physicien et en bon mathématicien, parce que Descartes avait toutes les qualités, il est à la recherche de la vérité, mais d'une vérité sûre, certaine, dont on ne puisse absolument pas douter. Et pour cela, il va emprunter un chemin assez étonnant. Il va douter précisément de tout ce qu'il sait et qui lui paraît indubitable. C'est un grand « et si ». Et si tout ce que je croyais vrai était faux ? Et si les principes des mathématiques étaient faux ? Et si Dieu lui-même n'existait pas ? Et si moi-même, mon corps, ma pensée, mes sensations, ce que je vois, ce que je sens ? Et si tout cela n'était qu'un vaste mensonge. Mais dans cette grande mise entre parenthèses, il y a quelque chose qui reste, quelque chose qui résiste au doute, quelque chose que l'on ne peut pas éliminer. Voyez plutôt, quand je pense que rien n'est vrai et que rien n'existe, je suis bien en train de penser. Et même quand je pense que moi, je n'existe pas, je continue quand même de penser. Or, je ne peux pas penser sans exister. Donc, au moment même où je pense, même si c'est pour penser que je n'existe pas, j'existe pourtant. Je pense, donc je suis.
Et c'est donc cela qui constitue une vérité certaine.
Exactement. Le tour est joué. Il suffit de penser pour avoir la certitude de l'existence de cette pensée immédiatement. Alors, ça n'a l'air de rien, mais la conséquence est énorme. Cela veut dire que la vérité n'est pas quelque chose d'éloigné de nous ou n'est pas quelque chose qui nous échappe. Toujours. La vérité est accessible. Elle est même parfois tout près de nous, à l'intérieur de notre pensée et du fait même que nous pensons, il y a en nous une vérité première. Alors vous pourrez me dire, ça nous fait une belle jambe, ça vous fait une belle jambe. D'accord, on sait qu'on existe, mais c'est un peu court. Oui, c'est vrai, c'est un peu court. La vérité du « je pense, donc je suis », qu'on appelle aussi le « cogito », parce qu'en latin, « je pense, donc je suis », ça se dit « cogito ergo sum », eh bien la vérité du cogito est assez limitée. Elle ne dit pas qui nous sommes, elle ne dit pas qui sont les autres, elle ne dit pas si la Terre est ronde, si le Soleil est au centre de l'univers ou si les hommes ont marché sur la Lune. Mais le cogito procure l'essentiel, une première marche, un critère absolu de vérité, une sorte de thermomètre fiable pour prendre la mesure de la vérité. Le cogito nous apprend que ce qui est vrai c'est ce qui résiste au doute, et donc ce qui se perçoit aussi clairement et aussi distinctement que le « je pense, donc je suis ». Ainsi, de cette première vérité, eh bien, nous avons une invitation à être prudent. Ce n'est pas parce que le critère de la vérité est dans ma pensée que tout ce que je pense est vrai et que tout ce que pensent les autres est vrai aussi. Mais à partir de cette vérité, je peux questionner les croyances, les rumeurs, les hypothèses. Je peux les mettre en doute et voir si ce qui reste est aussi clair, aussi distinct, aussi certain que la certitude d'exister quand je pense. Ce cogito, c'est un point fixe. Avec ces cinq mots, Descartes consacre la puissance en chacun de nous de l'esprit critique.
Qu'est-ce que j'aurais aimé l'avoir comme prof de philo, ce Thibaut de Saint-Maurice. Merci beaucoup Thibaut. Les punchlines de la folie, de la philo sont à podcaster sur l'appli Radio France. Et n'oubliez pas, ce soir à 20h, l'heure philo avec notre amie Patricia Martin. Merci aux amis du vendredi, Thibaut et Guillemette. Merci beaucoup Laurent Vallière.
Merci à vous.
42e Ali. Rue, c'est le dimanche à midi sur France Musique. On vous retrouve bientôt dans Le Masque et la Plume de Rebecca Manzoni.
Est-ce que je peux juste te dire qu'il y a 18 comédies musicales à l'affiche actuellement à Paris? Je vous conseille Cher Evan Hansen et La Petite Boutique des Horreurs, et je vous assure, c'est pas sucré.
Merci Emmanuel Bigan. La Symphonie Neuronale, c'est publié chez Humaine Science. Merci à Nathalie Romero à la programmation de cette émission avec la collaboration de Noé Brabant. Merci à Claire Destacan pour la réalisation. Merci à Valentine Chedebois pour la programmation musicale. À la technique ce matin, Gaspard Guy Bourget.